Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, animée par les militantes et les militants de la CGA. On se retrouve tout de suite. Bonsoir,
bonsoir.
Êtes à l'écoute d'Idées Noires. On va commencer par les annonces.
Quelques annonces, voilà, on est un petit peu à la bourre, hein, mais du coup on va démarrer assez rapidement. Deux petites annonces notées et trouvées ici sur le net, ici ou là sur le net. Donc demain à la fac à Bron, une réunion d'information sur la situation à l'université Lyon 2. Ça se passera donc demain à 14h en amphi G. Donc la petite présentation, c'est il s'agira d'abord de présenter la situation à l'université pour des titulaires enseignants, des personnels administratifs et des vacataires enseignants et comment leurs problèmes quotidiens impactent notamment les conditions d'études des étudiants. Blablabla, donc n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Donc jeudi 22 à 14h, prévoyez un petit temps parce qu'il paraît qu'à l'entrée des facs depuis une semaine, on se demande pourquoi il y a des fouilles. Il faut montrer patte blanche ou plutôt une carte d'étudiant pour pouvoir rentrer. Donc tout à l'heure, enfin notamment en ayant une petite vue sur une des facs lyonnaises, il y avait une bonne file et les gens ont dû patienter une bonne demi-heure avant de pouvoir rentrer pour aller en cours. C'est formidable. Voilà, donc allez-y un peu en avance si vous voulez y aller. Et sinon, si vous n'êtes pas étudiant et que ça vous intéresse, bah, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas de carte. C'est comme ça. Vendredi soir, donc à la Plume Noire, on se fait un peu de pub, hein, voilà, on ne va pas se gêner non plus. Donc la Plume Noire, on le rappelle, c'est au 8 rue Diderot, dans le premier, sur les pentes, et donc avec une projection vendredi soir, ouverture du local à 20h, projection à 20h30, en prix libre, comme d'habitude pour chaque activité, avec la projection donc du film Pride. Je vous lis vite fait le synopsis. Été 84, alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le syndicat national des mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d'activistes gays et lesbiens décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l'Union nationale des mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se décourage pas. Blablabla. On va pas raconter tout le film non plus.
Non.
Si vous voulez venir, donc vous venez vendredi soir à La Plume, vendredi, ouverture à 20h et projection à 20h30.
Et c'est une histoire vraie.
Tout à fait, pardon, excusez-moi, je n'avais pas...
C'est pas grave.
Ça va, alors c'est pas grave, ça va. Et autre chose du coup, et là je vous laisse la parole, un rassemblement qui aura lieu demain soir.
Tout à fait, un rassemblement à l'appel de RESF, le réseau Éducation sans frontières, donc demain soir, le jeudi 22 janvier à 18h devant la PREF. La PREF, je rappelle, c'est rue du Noir, tram T1, arrêt Saxe-Préfecture. C'est contre l'exclusion des jeunes majeurs étrangers. En règle générale, alors avant de lire le petit texte d'RESF, je vais vous en lire un autre à propos des mineurs étrangers isolés. À l'heure actuelle, l'État, alors que ça faisait quand même bien 6 ou 7 ans que ça avait plus ou moins disparu, on va dire, l'État fait à nouveau plutôt des tests osseux. C'est-à-dire qu'il vérifie l'âge, entre guillemets, des jeunes mineurs qui arrivent à l'aide de tests osseux, sachant que les tests osseux, vous vous souvenez du cas d'un jeune mineur dont on avait parlé au mois de juin, de mémoire, dont le test osseux disait qu'il avait entre 17 et 35 ans.
Formidable.
Voilà. Donc il y a un petit appel qui est paru dans Le Monde et qui demande... Enfin, c'est un appel à signature. Donc il doit être signé le plus massivement possible. Depuis 2012, 8 jeunes étrangers au moins, de ceux que l'on appelle mineurs isolés étrangers, ont été traduits devant les tribunaux lyonnais. Le Conseil général du Rhône, qui les avait pris en charge, se portant partie civile. tous condamnés en première instance à des peines de plusieurs mois de prison, assorties ou pas de sursis, à des années d'interdiction de territoire, ainsi qu'à de lourdes sanctions financières, jusqu'à 260 000 euros. Accusés d'usurpation, d'interdiction de d'usurpation d'identité, de faux et d'usage de faux dès l'instant où un test osseux les décrète majeurs, et, selon la presse locale, d'avoir vécu au crochet du contribuable. Soumis, la presse locale lyonnaise, vous la connaissez, elle est de droite, hein, par la presse en règle générale. Soumis au même test qui les décrète majeurs, d'autres jeunes, plusieurs centaines vraisemblablement, sont exclus de l'aide sociale à l'enfance et se retrouvent à la rue. Pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à leur arrivée en tant que mineurs, au vu des documents qu'ils ont produits, ils sont accusés d'avoir menti sur leur âge, souvent à quelques mois de la majorité. Ils sont alors soumis à des examens physiologiques et à des tests d'âge osseux dégradants pour ces jeunes filles et garçons, et donc quasi unanimement les instances médicales et éthiques récusent les validités et condamnent l'utilisation à d'autres fins que médicales. Ainsi, dès juin 2005, le comité consultatif national d'éthique soulignait l'inadaptation de ces méthodes, comme l'avait fait auparavant le défenseur des droits des enfants. Tour à tour, l'Académie nationale de médecins, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, l'ancien commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Haut Conseil de santé publique, les défenseurs des droits ont émis sur ce point les plus expresses réserves. Récemment, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans un avis du 24 juin 2014, préconisait de mettre fin aux pratiques actuelles d'évaluation de l'âge. C'est pourtant sur la base de ces examens où presque tous ceux qui les subissent sont déclarés majeurs, entre donc 18 ans et demi et 35 ans. À Lyon, certains sont en outre poursuivis et emprisonnés. Ces mineurs seraient-ils des délinquants si dangereux qu'il faille les arrêter à l'audience, les écrouer sur l'heure? Que font-ils de leur scolarité, pourtant prévue par la loi française, même en cas de présence irrégulière sur le territoire? De leur stage? La justice ne veut rien savoir, car c'est à l'instant tout de suite qu'ils doivent payer leur prétendue dette à la société, même s'ils n'ont commis aucun délit que celui non prouvé, voire inventé, d'avoir dissimulé leur âge. Ils ont été enfermés au milieu de délinquants, ont purgé jusqu'à 4 mois de prison à Lyon-Corba. Narek Erus, Mohamed Al-Kassim, Karim, Chernor, Kelson, Keletegui, Mamoudou sont africains du Tchad, de Guinée, de Sierra Leone, d'Angola, de République démocratique du Congo. Des noms de pays qui parlent d'instabilité politique, de guerre civile, de misère, d'Ebola. Des zones qu'ils ont quittées pour de longs et dangereux voyages de plusieurs mois, quelquefois plusieurs années. Ces 8 jeunes sont les emblèmes du refus choquant de collectivités publiques d'appliquer la loi qui leur impose la protection des mineurs. Un scandale qui touche des centaines de mineurs isolés en France. Le président de la République souhaitait faire de son quinquennat celui de la jeunesse. Le ministère de la Justice avait, le 31 mai 2013, défini un dispositif de mise à l'abri et d'orientation imposant aux conseils généraux d'assurer la prise en charge des MIE. Une mesure positive qui, c'est à regret, n'interdit pas explicitement le recours aux tests d'âge osseux devenus systématiques dans certains départements. La place de ces mineurs n'est ni dans la rue, ni dans une prison. Nous demandons à Monsieur le Président de la République et à Madame la Ministre de la Justice d'interdire instamment les tests d'âge osseux et autres examens uniquement physiologiques qui n'ont aucune pertinence pour déterminer leur âge légal. On sait en effet aujourd'hui que le développement physique des jeunes qui ont subi de forts retards de croissance dans leur enfance, notamment du fait de la malnutrition et des traumatismes, ne peut être comparé à celui des jeunes qui n'ont pas eu la même histoire. C'est la raison essentielle pour laquelle la communauté scientifique se refuse désormais à leur accorder toute crédibilité. Renonçons donc à cette pratique comme l'ont déjà fait plusieurs pays voisins du nôtre. Il y va de l'avenir des jeunes gens, il y va aussi des valeurs qui, selon nous, doivent régir la société. La protection des mineurs, de tous les mineurs, doit s'exercer pleinement. C'est donc la raison pour laquelle il y a, je le répète, ce rassemblement demain à 18h devant la préfecture à l'appel de RESF. Voilà, normalement il y a une délégation d'RESF qui doit être reçue à 18h30. Ça serait aussi pour les soutenir. Affaire à suivre. Il y sera normalement question de la régularisation, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, d'un jeune Amine pour qu'il y ait la levée de son OQTF. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses à 18h devant la préf demain. Je l'ai bien répété.
Normalement, il fait un peu meilleur qu'aujourd'hui, donc ça devrait...
Si tout va bien...
Ça devrait peut-être attirer plus de monde, et il faudrait d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, on enchaîne avec un peu de musique.
C'est parti, donc c'est Vlad.
Ah, et c'est quoi le titre?
Vous allez deviner, à mon avis.
D'accord.
Sur la fin de la chanson, il le répète plusieurs fois.
À tout de suite.
Ça va, c'est un éléphant d'Afrique. Le pire, c'est les éléphants nazis. Connard, ce babar! Toutes les souris prennent le maquis, moi du
préférez Walt Disney, c'est petit. Vache qui rit, abruti. Tous les canards sont des anards, à père en retard dans la mare. Tous les canards sont des anards, à part Donald Duck, ce connard. Fuck, fuck, Donald Duck, ouais, fuck, fuck, Donald Duck, ouais, fuck.
Est-ce que c'était un hommage à un des musclés qui est décédé récemment?
Mais pas du tout, mais pas du tout. Donc, vous êtes toujours à l'écoute donc, d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et nous allons donc enchaîner, nous allons retourner à Calais. Ça faisait pas très longtemps qu'on y était déjà retourné. Enfin, on y vient un peu tous les mois,
hein,
vu ce qui s'y passe là-bas. Donc on avait bien parlé à un moment donné donc, du mur de la honte que... Que la coopération franco-britannique voulait installer aux abords du port pour pas que les migrants puissent y accéder. On avait déjà fait quelques explications sur ce qui passait là-bas, notamment au niveau de la police, au niveau des fachos et compagnie. Et là, de nouveau, c'est reparti. On va vous lire un communiqué de l'action antifasciste Nord-Pas-de-Calais par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, le week-end prochain là-bas. Ce dimanche 25 janvier à Calais, le groupuscule d'extrême droite locale Sauvons Calais appelle à une marche contre l'immigration. Ce collectif, en un an d'existence, s'est fait notamment connaître par sa violence verbale et physique lors d'agressions et de menaces répétées envers les migrants et migrantes et les militants et militantes solidaires, lors d'attaques de lieux de vie et par son matraquage permanent de mensonges diffamatoires à l'encontre des réfugiés du Calaisis, les accusant de tous les maux à des fins de récupération politique. Le 7 septembre dernier, ils avaient déjà organisé un rassemblement avec la bienveillance de l'État devant la mairie. Ils y avaient montré leur vrai visage, multipliant saluts nazis, propos racistes et actes de violence. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'ils ont officialisé leur union avec le Parti de la France de Karl Lang et son représentant Picard, Thomas Joly. Cette fois-ci, en plus de nos fascistes français, on y annonce la présence du Vlaams Belang, FAF flamand, et de l'English Defence League, FAF anglais, un petit pot pourri de l'extrême droite européenne. Une fois de plus, cette manifestation est autorisée par la préfecture et les représentants de l'État, les mêmes qui défilé hier dans les rues de Paris pour la paix et la fraternité entre les peuples sikhs. Quelques jours seulement après l'attaque meurtrière des locaux de Charlie Hebdo par des islamistes radicaux, nous doutent que l'extrême droite donnera à cette marche un caractère encore plus raciste et xénophobe qu'à l'accoutumée. Une nouvelle fois, l'action antifasciste Nord-Pas-de-Calais appelle à se rassembler en nombre le 25 janvier pour empêcher la vermine de parler dans les rues de Calais, pour faire entendre nos valeurs d'unité entre les peuples et exprimer notre soutien et notre fraternité avec les migrants et migrantes. Unis et solidaires, soyons toutes et toutes présentes dès midi, place d'armes à Calais. Donc voilà pour le communiqué de presse de l'action antifasciste. Et on voulait aussi retourner sur Calais pour parler, il y a un rapport, vous avez sans doute entendu parler, un rapport de Human Rights Watch, du coup là-bas, donc ils sont allés faire des tours, ils sont allés interroger un petit peu les migrants pour savoir comment ça se passait avec la police. Alors on avait déjà parlé, hein, il y a un petit moment, notamment avec des descentes de flics qui débarquaient en camion dans des hangars désaffectés où dormaient les migrants et migrantes, ils débarquaient le soir, sirène hurlante, en passant notamment le dimanche à Bamako, ces jours de mariage, à fond les ballons pour réveiller tout le monde et pour les chasser du hangar. Certains avaient été condamnés, enfin pas condamnés, mais bon, certains avaient été visés par des plaintes, mais procédure pénale, mais bon, c'est toujours la même façon, enfin toujours la même chose avec ces trucs-là, c'est que ça marche jamais. Et donc là, donc le rapport, je vous en lirai quand même des petits bouts parce que c'est assez affligeant, notamment au niveau des témoignages qu'il peut y avoir. Notamment donc les demandeurs d'asile et migrants donc vivant dans le dénuement dans la ville portuaire de Calais sont victimes de harcèlement et d'exactions de la part de la police française, a déclaré ce rapport. Les abus décrits comprennent des passages à tabac et des attaques au gaz lacrymogène, alors que les migrants et migrantes et demandeurs d'asile marchaient dans la rue ou se cachaient dans des camions dans l'espoir de se rendre au Royaume-Uni. En novembre et décembre 2014, Human Rights Human Rights Watch s'est entretenu avec 44, donc seulement 44, hein, demandeurs d'asile et migrants à Calais, dont 3 enfants. La plupart des entretiens ont été menés en groupe. Les migrants et les demandeurs d'asile ont décrit ce qui semble être des exactions de routine par des policiers alors qu'ils tentaient de se cacher dans des camions ou alors qu'ils marchaient dans la ville. 19 personnes, dont 2 des enfants, ont déclaré que la police les avait maltraités, au moins une fois, notamment par le biais de passages à tabac. 8 ont eu des membres fracturés ou d'autres blessures visibles, qui selon leur dire ont été causées par la police de Calais et dans les environs. 21, dont 2 enfants, ont confié que la police les avait aspergés de gaz lacrymogène. On rappelle que la plupart des migrants et demandeurs d'asile à Calais n'ont pas d'abri contre le froid et la pluie, pas d'accès à des installations sanitaires et un accès très limité à l'eau courante. Un grand nombre d'entre eux dépendent de la nourriture fournie par les organisations de solidarité et des bénévoles locaux, dont certains sont chassés et traqués par les flics et les fachos. Donc je vais vous lire voilà, encore quelques témoignages, en sachant que du coup le camp qu'ils veulent installer là, le gouvernement, ils veulent l'installer à des kilomètres du centre-ville de Calais, donc ce qui ne facilite vraiment pas le, bah, pour eux le passage vers l'Angleterre. Voilà, tout en sachant qu'aussi là c'est pas là-dedans, mais que la police, on avait vu ça aussi, s'amusait par exemple à les embarquer, les emmener à quelques kilomètres du centre-ville, à leur piquer une chaussure sur les 2 et à les renvoyer après, les laisser comme ça dans la campagne pour qu'ils puissent qu'ils se démerdent pour rentrer dans le centre-ville.
Ah, ils faisaient la même chose avec les SDF dans le sud de la France.
Voilà, c'est toujours sympathique.
La police que vous avez pour certains et certaines applaudit.
Oui,
la même. Hein.
On vous assure. Donc par exemple Rosa, 25 ans, donc qui a indiqué qu'elle était ressortissante d'Érythrée. Elle a déclaré que le 14 novembre 2014, des policiers l'ont battue quand ils l'ont trouvée dans un camion sur l'autoroute. Comme pour les autres personnes interrogées, elle est identifiée seulement par son prénom pour sa protection. Les prénoms de certaines personnes interrogées ont été modifiés lors de demande. Donc voilà, la police a examiné le camion et m'a trouvé. J'ai dit s'il vous plaît aidez-moi, mais ils m'ont battue et je me suis effondrée devant le camion. Ils m'ont roué de coups, de pieds sur le sol. Rosa a déclaré qu'elle a perdu connaissance et s'est réveillée dans la salle des urgences à l'hôpital. Quand l'association s'est entretenue avec elle le 25 novembre dans un hôpital de Calais où elle avait été opérée de la jambe droite, elle a déclaré qu'elle devrait encore passer 6 semaines à l'hôpital. Voilà, il y en a d'autres encore. Salamou, 28 ans, aussi originaire d'Érythrée, a déclaré que 3 policiers l'ont battu près d'une station d'essence dans la soirée du 25 novembre 2014. Donc ça a été, enfin, l'étude est faite seulement sur 2 mois et seulement sur 44 personnes. Donc vous imaginez le nombre de migrants et migrantes qu'il y a à Calais et sur le plus long terme ce que ça peut donner. Donc je marchais normalement, a-t-il déclaré. 4 policiers sont sortis de leur camionnette et m'ont frappé à coups de bottes et de matraque. Après m'avoir frappé, un policier a dirigé une lampe sur moi et m'a ri au nez. Aidez-moi, ai-je supplié, mais il a ri. Ils m'ont donné des coups de pied alors que j'étais à terre comme un chien. Donc il avait des blessures le lendemain, donc visibles sur le nez notamment. Donc voilà, autrement on a Mohamed, 32 ans, originaire du Soudan, a déclaré qu'il marchait dans la rue à midi le 2 novembre quand un agent de police l'a frappé dans le dos avec une matraque. J'ai couru et je suis tombé dans un trou. La police a appelé une ambulance, j'ai passé 20 jours à l'hôpital, mon bras était cassé en 3 endroits. Donc voilà, enfin il y en a vraiment, enfin vous irez voir le rapport sur le site, il y en a vraiment un peu de tous les côtés. Voilà, tout en sachant voilà que enfin la plupart des gens enfin sont partis pour des raisons humanitaires ou de guerre ou voilà où ils ont été chassés hein. Enfin Aziz encore voilà, enfin j'en fais un dernier mais après on arrêtera, a déclaré que des policiers l'avaient également battu 20 jours plus tôt quand ils l'ont trouvé caché dans un camion sur l'autoroute, ils m'ont frappé avec leurs mains, m'ont donné des coups de poing au visage, mon nez saignait avec un bâton sur le corps, puis ils m'ont sorti du camion, ils ont dit allez va dans la jungle. Voilà, toujours sympathique, une petite parole raciste qui accompagne tout ça. On vous conseille aussi un article qui a été publié sur Bastamag. Voilà, donc qui s'appelle Exilés en France, ils se sont échappés de la guerre du terrorisme et affrontent l'arbitraire et l'indifférence. Voilà, qui pourra.
Ah, Bastamag, des fois ils ont des trucs pas clean clean.
Ouais,
hein,
voilà. Cet article là en tout cas, il le fait. Ensuite, je voulais vous parler de quoi?
De Raymond Guérem.
Ouais, voilà, vous enchaînez là-dessus. Voilà, je suis aussi entendu Guérem, parler.
Pardon,
ouais, ouais. Donc, c'était un saint cigane de 89 ans, donc tabassé par la police. Voilà, donc une fois de plus, une affaire de violence policière classée. En septembre, le dernier survivant du camp d'internement des gens du voyage, c'est pas n'importe qui, en plus ce monsieur, hein, de Linas Montléry, avait donc sous pétain, donc il était dans ce camp-là, donc avait été frappé à plusieurs reprises lors d'une descente de flics dans son camp à Arpajon dans l'Essonne. Donc voilà, donc là il raconte un petit peu ce qui s'est passé aussi. Donc voilà, le flic a crié ferme ta gueule plusieurs fois et puis c'est comme s'il avait pété les plombs, il a commencé à me taper dessus avec la matraque, une matraque en fer télescopique, ça faisait très mal et puis comme j'ai que la peau sur les os, ça résonnait comme une grosse caisse. Il y a un policier plus âgé qui lui a crié attention, vas-y doucement, c'est un vieux, mais le jeune flic qui s'acharnait sur moi ne l'a pas écouté et l'autre a paru avoir peur et s'est mis en retrait. J'avais très mal partout, mais le pire c'est quand il a tapé sur l'arrière de l'épaule, presque derrière le cou, ça m'a comme paralysé. Donc le site Dépêche Tzigane annonce aujourd'hui que sa plainte a été classée par le parquet. Raymond n'a même pas été convoqué pour donner sa version. Voilà, elle est belle la justice, a réagi Raymond Guérémé, jugeant que sa décision d'enterrer l'affaire révoltante. J'ai 89 ans et j'ai reçu des coups de la part de jeunes policiers. J'avais des traces qui ont effrayé tout le monde, sauf la justice apparemment, a-t-il ajouté, se disant déterminé à continuer le combat pour une vraie justice qui ne se mette pas systématiquement du côté de la police. Les organisations de défense des droits de l'homme au plan national et international le pointent régulièrement. Il est très difficile, voire quasi impossible en France de porter plainte contre des forces de police, de gendarmerie ou des militaires sans que cette plainte ne soit systématiquement classée sans suite ou que le citoyen concerné ne doit s'engager dans une lutte de David contre Goliath pendant des années. Raymond n'a pas été entendu par les enquêteurs, se plaignant de nombreux coups. Il n'avait été examiné qu'un mois après les faits. Voilà, vive la justice française.
Eh ben, on va continuer dans la justice et la police. Moi, je vais vous parler de Jouer les Tours. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, là, ceux du fond là, de la classe. À Jouer les Tours, je rappelle que le 10 janvier, au mois de décembre, un jeune qui s'appelle Bertrand Bilel Nzoa Bonayo, a été tué par les flics. Et que, suite à ça, évidemment, il y a eu un petit peu des gens pas très très contents. Forcément. Évidemment, comme toujours, la justice protège les flics. Alors, plusieurs éléments vis-à-vis de cette affaire, entre guillemets. D'abord, le premier, c'est que les médias, leurs médias, plus exactement, pour pouvoir illustrer ce meurtre, avaient utilisé la photo d'un jeune rappeur qui n'avait rien à voir avec la choucroute, petit 1. Donc, déjà, les médias font n'importe quoi, mais ça, c'est pas nouveau non plus. Et donc, petit 2, eh bien, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le procureur n'a toujours pas nommé de juge pour enquêter sur les circonstances de la mort de Bilel, malgré la constitution de la partie civile de la part de la famille. Aucun témoin n'a été entendu, malgré les incohérences entre la version des policiers et celle des témoins présents sur place. D'ailleurs, il a été démontré la semaine dernière, grâce à un journal indépendant, qui est un journal ami de rébellion, qui s'appelle La Rotative, qui a été aussi repris par E89, donc que le procureur avait menti en niant la présence de caméras sur le commissariat. Or, des photos du commissariat ont été prises prouvant qu'il y avait bien des caméras. Donc déjà, il y a quelques petits soucis. Et puis, il faut savoir que donc la famille avait prévu et les amis avaient prévu de faire un rassemblement devant le commissariat de Jouer les Tours le 10 janvier à 15h, afin d'encourager les témoins de la mort de Bilel à se faire connaître. Mais c'était sans compter sur l'intervention du syndicat Unité SGP Police. Oui. Pop, pop, pop. Donc, ce rassemblement avait donc lieu pour rendre hommage au jeune Jocondien de 20 ans et appeler donc les éventuels témoins à venir témoigner, puisqu'a priori il n'y a pas de témoins, soi-disant. Puisque je rappelle que la police prétend que Bilel s'est présenté de lui-même au commissariat pour poignarder des policiers. Pop, 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 je savais pas quoi faire de mon mercredi après-midi, je suis venu poignarder des policiers, bien sûr. Et celle l'autre version, c'est celle selon laquelle Bilel aurait été interpellé par des policiers et emmené de force au commissariat. Ce qui est une version beaucoup plus crédible connaissant les flics en France. À ce stade donc, l'appel à témoins lancé par le procureur n'a rien donné. Et il faut noter aussi qu'il invite le procureur, les témoins, à se tourner vers la direction régionale de la police judiciaire d'Orléans. Témoigner devant des flics contre des flics, comment vous dire ? Non, ça ne marche pas. Donc certaines personnes auraient voulu que toute la lumière soit faite dans cette affaire, mais les flics, évidemment, sont cul et chemise avec le proc. Et d'après le syndicat Unité SGP, l'appel à manifestation, enfin en tout cas à rassemblement, était une provocation. Et ils ont donc réagi au quart de tour en apprenant la veille du rassemblement qu'un dispositif de maintien de l'ordre était prévu par le préfet. Sous le titre « Je suis policier à Tours et je veux que l'on me respecte », le délégué syndical écrit « Notre organisation ne peut tolérer une telle provocation et organisera lui aussi un rassemblement de policiers afin de défendre les policiers ainsi que les valeurs de la République ». Résultat, sous la pression de ces valeureux flics républicains, le préfet a décidé de prendre un arrêté interdisant le rassemblement devant le commissariat. Avec ceci, considérant que pour prévenir tout risque de trouble à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens, il y a lieu d'interdire la tenue de cette manifestation non déclarée devant et aux abords du commissariat de Jouer les Tours. De fait, le risque de trouble vient de la volonté des flics de manifester afin de défendre les valeurs de la République. Que des personnes émues par la mort d'un fils, d'un frère ou d'un ami puissent remettre en cause la version officielle, c'est une provocation et ça mérite bien un gros coup de pression. Voilà où on en est. De la collusion donc de la police, de la justice, des meurtres policiers qui ont toujours lieu en France régulièrement, effectivement. Et là, bizarrement, ça émeut vachement moins de monde quand même, tous ces jeunes qui décède étrangement dans les couloirs des comicos. Voilà, ça c'était la petite page. En fait, il se passe d'autres choses ailleurs en France. Incroyable, mais vrai. Et il se passe toujours plein d'autres choses en France. Tellement plein d'autres choses que je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis mercredi dernier, hein, il y a eu 116 actes anti-musulmans qui ont été recensés. Ce qui fait qu'il y a une augmentation de 110% par rapport au mois de janvier 2014 des actes anti-musulmans. Ce qui est pas négligeable non plus, donc recrudescence là-dessus. Et en plus des actes anti-musulmans, où il faut savoir que en moins d'une semaine, il y a eu plus de condamnations pour apologie du terrorisme qu'au cours des 20 dernières années.
Ça c'est pas mal aussi parce que notamment pour des simples personnes, enfin notamment pour le cas d'une personne qui était déficiente intellectuelle légère depuis son enfance, qui a été diagnostiqué voilà tel quel, et donc du coup voilà, qui était en plus ivre a priori quand ça s'est passé. Du coup, il a pris 6 mois ferme, le loup formidable, alors qu'il y a des journalistes. Il y a des journalistes quand même qui notamment monsieur Tassin, je crois, qui s'est viré du Point, pour des propos complètement fous sur les musulmans. On peut se lâcher tant qu'on veut, puis là du coup quand on a une légère déficience et qu'on est bourré et qu'on dit ils ont tué Charlie, je crois que c'est bien fait, on prend 6 mois ferme.
Ah bah c'est à dire monsieur Tesson, il c'est un peu un homme hétéro blanc cis bien placé dans la société,
c'est soi-disant intellectuel, ouais. Et donc par rapport à cette déferlante raciste et islamophobe, on vous conseille donc l'article qui est toujours mis à jour sur Paris Lutte Info. Il s'appelle Déferlante raciste et islamophobe dans toute la France. Qui fait le listing de tout ce qui se passe un peu de partout.
Tout à fait. Et on va en profiter parce que. Alors, le communiqué de presse de Lyon et de la CGA de Lyon n'a pas plu à tous et à toutes. Forcément, tout le monde a eu envie de défiler, d'être dans son peuple, comme on dit. dimanche dernier, c'est les réactions sélectives pour aller applaudir la police, par exemple. Et donc, on voudrait juste rappeler notre positionnement, enfin des extraits de notre positionnement sur la religion, puisqu'on s'est fait accuser d'islamophilie. Et oui, c'est possible, entre autres choses. Donc, je rappelle tout de même que nous sommes un groupe anarchiste. Et il y a l'espèce de vieux leitmotiv, comme dirait Bakounine mon chat, ni Dieu ni maître, tout ça. Donc, on va vous rappeler un petit peu ce que nous, on pense aussi à la CGA.
Donc voilà, suite à ce communiqué, après on n'a pas reçu 36 000 mails non plus, faut pas vous inquiéter non plus, il y a eu d'autres mails qui sont passés comme ça, en nous demandant ce qu'on avait fait notre anarchisme, mais du coup on a publié un autre texte pour expliquer un peu plus notre positionnement et notre raisonnement par rapport à ça, qui s'appelle sur la question religieuse, que vous pouvez consulter sur notre site, cgalyon.ouvaton.org, et qui fait notamment le distinguo entre majorité religieuse, minorité religieuse, et minorité nationale, et minorité religieuse. Alors je vais vous lire deux petits extraits de ce communiqué-là, puis après ce sera à vous de faire l'effort éventuellement d'aller sur le site pour aller lire le reste. Dans tous les pays existent des majorités ou des minorités religieuses. Les personnes appartenant aux minorités religieuses sont très souvent victimes de persécutions, d'oppressions liées à ce fait. La liberté de conscience que nous défendons ainsi que le refus de l'oppression implique que nous nous opposions à ces persécutions ou aux rapports de domination en question que subissent les individus appartenant aux minorités religieuses. Cela ne signifie pas pour autant qu'il nous appartient de défendre les convictions religieuses de ces individus ou que celles-ci doivent échapper à notre critique lorsqu'elles sont mobilisées à leur tour pour justifier des situations d'oppression ou des rapports de domination. Nous ne parlons pas ainsi de religion opprimée comme le font les idéologues religieux des minorités religieuses en question, mais bien de l'oppression des personnes appartenant à des minorités religieuses. Ce sont des personnes qui sont opprimées et non une idéologie. Nous combattons l'idéologie religieuse parce qu'elle prétend déterminer ou justifier les comportements, les normes sociales, l'organisation sociale dominante et soutient ou contribue de ce fait à la domination et l'oppression des individus qui sont directement victimes de ces normes imposées, les femmes, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, trois petits points, ou de l'organisation sociale ainsi justifiée, les classes exploitées et l'ensemble des opprimés précédemment cités. Et donc après, il y a un petit laïus sur donc les minorités nationales et minorités religieuses. Dans le cadre de la construction de l'idéologie de la nation, nous assistons depuis la fin du 19e siècle à une dynamique qui vise à transformer les minorités religieuses en minorités nationales. Elles sont désignées comme ennemis intérieurs, comme corps extérieur à la communauté nationale vivant sur le territoire, définie par des références culturelles et théologiques à une religion majoritaire. Ainsi, les personnes issues de minorités religieuses, même si elles se convertissent à la religion dominante ou deviennent athées, restent considérées comme extérieures à la communauté nationale par l'idéologie dominante, ces mêmes communautés nationales étant définies par référence à la religion majoritaire. Donc du coup voilà, je voulais un dernier petit extrait. Dans tous les cas, ces amalgames concourent à l'oppression des personnes ainsi assignées à une identité religieuse et par exclusion à une identité nationale. Donc voilà, donc on vous laisse lire la suite. C'est vraiment pour se distinguer, voilà, parce que du coup nous on sait que, enfin, la tactique notamment de tous les fascistes, qu'ils soient religieux ou nationaux, justement, c'est de faire l'amalgame entre personnes musulmanes par exemple et juste une personne arabe, noire ou du moins extérieure à la civilisation européenne qu'ils défendent, et que pour eux de toute façon, même si l'islam ça reste un combat, derrière se cache tout de la question d'immigration et pour eux de la sauvegarde d'une soi-disant civilisation blanche et chrétienne.
Et puis très souvent après leur islamophobie, il y a de l'antisémitisme quand même. Il faut un petit peu gratter, mais on trouve aussi ça derrière chez eux. Bien.
D'ailleurs, vous voulez faire direct sur le...
Ah, on peut faire ça, c'est
parce
possible.
Parce que vu que derrière tout ce qui est antisémitisme, il y a des théories.
Du complot.
Voilà. Tintintintin. Et donc, comme tout événement un peu... dramatiques, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme les attentats qu'il y a eu la semaine dernière, l'assassinat dans l'hypermarché Cacher et donc le 11 septembre et d'autres trucs, bah, du coup, fleurissent sur le net des tonnes et des tonnes de théories conspirationnistes.
30 minutes, sur le net avant qu'il y ait une première théorie qui sorte.
Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Je commence et, voilà. Donc c'est juste pour faire un petit tour, en fait, enfin, un petit topo sur les théories conspirationnistes. C'est un truc qui était sorti sur un 4 pages qu'on avait sorti à l'époque unitaire sur Lyon. Et donc on va vous lire ça, il y en a pour 2 minutes. Donc l'ensemble des groupes conspirationnistes repose sur la même base, on nous cache quelque chose. Mais qui sont ou qui est ce « on » ? Il semblerait que ce « on » soit juif. En effet, derrière la plupart des discours conspirationnistes des groupes tels que les Illuminati, Zeitgeist, Reopen 911 ou encore les reptiliens, lorsqu'on gratte un peu, la lectrice avisée comprend vite l'antisémitisme à peine dissimulé des discours. C'est donc le si fameux complot juif. On trouve comme idée récurrente la théorie d'un complot organisé par le groupe Bilderberg ou encore par la commission trilatérale, le tout manipulé par David Rockefeller ou les Rothschild. Dans les milieux conspirationnistes, M. Rockefeller, parce qu'il est riche, est considéré comme juif. Les membres de Reopen 911 expliqueront que les attentats du 11 septembre ont été initiés par le gouvernement américain à la solde d'Israël, forcément. La théorie portant sur les Illuminati est la suivante. Ils constitueraient une société secrète qui chercherait à prendre le pouvoir sur le monde en passant entre autres par les gouvernants américains. De plus, on trouverait des signes des Illuminati un peu partout, dans le fameux dollar américain. Ces complotistes font à nouveau référence au Bilderberg et à Rockefeller. Quant à eux, les membres de la secte Zeitgeist ont basé leurs croyances à partir d'un film en 3 parties. La 2e partie revient encore sur le fameux 11 septembre et toutes ces choses qu'on nous cache. Et la dernière partie n'est finalement qu'un copier-coller, nouvelle génération du protocole des sages de Sion, texte antisémite notoire qui fait encore recette. Les reptiliens, quant à eux, sont des êtres vivants reptiles, mais si je vous assure, qui seraient parvenus à se croiser avec des êtres humains, on est en plein V, hein, je ne sais pas si vous rappelez de cette série, raison pour laquelle nous pouvons les reconnaître et qui sont bien décidés à dominer le monde. Mais là aussi avec l'aide des dirigeants qui manipulent les institutions mondiales et évidemment on découvre à nouveau que Rockefeller et Rothschild n'ont rien de moins qu'un croisement reptilien-humain. Voilà, les membres de la secte Zeitgeist, mais aussi les reptiliens, reconnaissent tous leurs liens avec les personnes croyant aux Illuminati, comme quoi le monde est petit chez les conspis. Et donc forcément, pour ce qui s'est passé au niveau de Charlie Hebdo, bah voilà, les théories ont fleuri.
Ont fleuri, oui, très très rapidement sur la net, comme je disais, en une demi-heure, hein, il n'en a pas fallu plus. Rapidement aussi repris par les groupes d'extrême droite essentiellement, mais pas que malheureusement. Je vais d'abord parler de l'extrême droite du coup, en parlant de ce cher monsieur Thierry Messant.
Forcément, il se dit fait « Oh, encore un livre peut-être à sortir
hein. !» Voilà. Donc lui, il a parlé de la stratégie du choc des civilisations et que ce choc des civilisations a été conçu d'après lui. Hein, donc la tuerie, les doubles tueries plutôt, ont été conçues entre Tel Aviv et Washington. Rien que ça, hein, voilà. Par ailleurs, pendant ce temps-là, sur un site qui se faisait passer pour celui du réseau audiovisuel public britannique, la BBC, il y a donc ce site, enfin, qui est un fake, un faux, a diffusé depuis dimanche 11 janvier un article et une vidéo censée montrer les incohérences et des images témoignant de la tuerie de Charlie Hebdo. Donc effectivement, ça a été repris en plus par pas mal de gens comme ça, sans trop faire gaffe, parce qu'il y avait marqué BBC, sauf que c'est l'adresse mail de la BBC n'est la officielle n'est pas l'adresse mail de ce site-là et la BBC ne reconnaît pas du tout effectivement de lien avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Bah, on a aussi dans un communiqué le parti antisioniste de Yahya Gouasmi, pardon, donc ancien colistier de Dieudonné et d'Alain Soral aux élections européennes de 2009, remember, condamne avec force la responsabilité du sionisme dans cet attentat. Et on a aussi Alain Benajam, qui est président du réseau Voltaire France et proche donc de Thierry Messant, forcément, qui dénonce de son côté un coup fourré fomenté par le Mossad et la CIA. Mais... rien que ça, le Mossad et la CIA. Waouh ! Est-ce que tu flippes un peu ? Est-ce que tu sens l'antisémitisme un tout petit peu derrière ? Parce qu'on le sent bien. Le problème, c'est que si ça pouvait se limiter à l'extrême droite, ça serait formidable. Enfin, j'ai envie de dire, ça serait formidable. Le problème, c'est qu'à l'extrême gauche aussi, il y a pas mal de nos camarades ou de gens qu'on peut croiser comme ça dans des manifs et tout, qui pensent que les théories conspi existent. Mais je rappelle que en fait, c'est de l'antisémitisme et que l'antisémitisme a cet avantage et cet inconvénient, dirons-nous, de pouvoir aller de droite comme de gauche et que ce n'est pas nouveau qu'il y ait à gauche ou à l'extrême gauche des personnes complètement et ouvertement antisémites, malheureusement. D'ailleurs, très bientôt, vous aurez sur notre site la magnifique conférence autour justement de l'antisémitisme et de nos milieux. Voilà, je vais m'arrêter là pour
je peux en rajouter parce que moi, allez, j'ai comme tous les trucs sur le net qui enfin, sont hallucinants, quoi.
Moi, je voulais pas.
Bon, c'est vrai, ouais, parce que bon, ça fait très rire parce qu'en fait, c'est tellement gros que, enfin voilà, c'était très rire aussi. Bon, il y avait un petit dessin amusant, donc en reprenant les de Charlie et en faisant un anagramme qui donnait Israël, voilà, pour dire voilà, que c'était encore un complot des juifs. Enfin, beaucoup ont parlé, voilà, des rétros, de la carte d'identité, que le gars a tiré sur le flic, il a tiré à côté parce qu'il n'y a pas de sang.
Ah oui.
Qu'il ouais, était vide, qu'un journaliste avait un gilet pare-balles et que c'est pas normal qu'il en ait un parce qu'il était au courant, donc c'était normal. Le téléphone mal raccroché dans l'hypermarché, c'était aussi un complot. Alors le mieux, après effectivement les services secrets occidentaux, enfin du coup que les Farquashi seraient des agents de la DGSE qui sont pilotés par le gouvernement juif français, enfin blablabla, je vous laisse voilà ce qu'il peut avoir, ou que c'est aussi une vengeance du Mossad par rapport à la reconnaissance de la Palestine par l'État français, enfin par le gouvernement, enfin par l'Assemblée nationale française. Et le mieux, accrochez-vous, attention, parce que celui-là il est très très fort quand même. Le numéro du Charlie Hebdo qui est sorti le jour de l'attaque, c'était le 1178. Si vous faites 1 plus 1 plus 7 plus 8, ça fait 17. 17 avec un slash, ça fait 1 slash 7. Si vous inversez, ça fait le 7-1, le 7 janvier, le jour de l'attaque, mon complot.
Waouh ! C'est génial.
Ça, c'est pas mal quand même. Hein,
ah, mais ça,
le gars,
c'est
il s'est
génial.
Creusé la tête hein, pour faire ça.
Moi, je dis bingo. De toute évidence, c'est un complot.
Et voilà. Et peut-être juste, avant qu'on fasse une petite pause, juste revenir pareil sur Paris Lutte Info. Il y a un article sur les rassemblements qu'il y a pu y avoir ce week-end contre l'islamophobie notamment. Donc d'ailleurs, avec un rassemblement à Paris où il y a eu plusieurs centaines de personnes, ça avait l'air assez bien, vu le track qui en est, enfin, le track qui appelait les affiches et compagnie. Ça avait un peu moins sympa à Sevran, parce que, en fait, il y avait que des fidèles musulmans qui défendaient un petit peu la région, donc là, c'était un peu moins drôle. À Nice, c'était encore moins sympa, parce que il y a un rassemblement, bon, qui n'était pas autorisé, hein, 70 personnes qui se sont fait disperser par la police. Enfin, on est à Nice, hein, voilà, non plus, hein, voilà. Et à Montpellier, où comme sur Paris, mais à Paris, la manifestation contre l'islam avait été annulée, à Montpellier, il y a un rassemblement quand même qui a eu lieu, mais ils étaient 70, je crois, et par contre, il y a une contre-manifestation qui avait été montée par le collectif Antifa 34, notamment, avec 200-300 personnes, je crois, donc c'est assez rassurant.
Oui,
et nos amis lyonnais, voilà, hein, qui avaient essayé de lancer le truc, hein, les identitaires cachés sous le sigle Lucide.
Oui.
Voilà. Qui étaient là la première fois, qui avaient été, enfin, ils annonçaient 450, ils étaient une grosse centaine à tout casser le premier jeudi. Ils ont essayé de relancer le coup, la semaine dernière, le vendredi, et ils étaient 50.
Ils ont pris de l'eau.
Voilà, ça fait rire, on est, voilà. Bon, voilà.
On se moque pas, c'est pas très sympa.
Donc, voilà, espérons donc qu'ils seront effectivement lucides et qu'ils arrêteront de faire chier avec ça.
Joli. Et on enchaîne, avec Boycott et No Pasaran, justement. À tout de suite.
Ciao, 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 guerrillero, no voy contigo, porque te siento aquí hoy.
Un petit bug. Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et
on parlait de l'international.
Je vous en prie.
À l'international, parce que c'est plus bien dit. Moi, je voulais vous parler de la Syrie et des Kurdes qui ont repris à lui une colline stratégique à Kobané. Yeah! Donc ça date, l'info date du 19 janvier, ce lundi. Les combattants et combattantes kurdes syriens ont repris lundi au groupe État islamique une colline stratégique depuis laquelle ils contrôlent désormais la ville de Kobané par le feu, a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon cette ONG, les unités de protection du peuple kurde, le YPG, le principal groupe syrien kurde, a saisi la colline Misténour après de violents combats durant la nuit. Au cours des opérations militaires, 11 membres de l'EI ont été tués et les Kurdes se sont emparés d'une large quantité d'armes et de munitions. Selon le directeur de l'observatoire, Rami Abdelrahman, il s'agit d'une victoire essentielle pour les YPG qui contrôlent désormais par le feu la ligne d'approvisionnement de l'EI entre Alep à l'ouest et Raqqa à l'est. Depuis la mi-septembre, l'EI se bat pour conquérir Kobané à la frontière avec la Turquie et a été sur le point de s'en emparer, avant d'être repoussé par les Kurdes, aidé par les raids aériens. Oui, alors ça reste entre gros guillemets, excusez-moi, c'est la dépêche de l'AFP. Alors, entre très gros guillemets, aidé par les raids aériens massifs de la coalition, fermé les très très gros guillemets, et les djihadistes donc ne contrôlent plus que 15% de la ville. Wouhou ! Pendant ce temps-là, il y avait Boko Haram. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler au moment où ils avaient kidnappé 200 jeunes filles à des fins de viol et de reproduction, etc., etc. Enfin, c'était clairement pour ça. Et puis ensuite, on n'a plus trop entendu parler de Boko Haram, sauf qu'en fait, Boko Haram a rasé pas moins de 15 villes, enfin villes-villages, expatriés, expropriés et tués pas loin, alors tués en l'occurrence pas loin de 2000 personnes, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont sans défense, hein, pas des militaires ni quoi que ce soit. Et donc, Boko Haram est en train d'avancer à grands pas au Niger et il ne se passe pas grand-chose. A priori, ça n'a pas l'air de choquer beaucoup la communauté internationale. Ouais. Pas plus.
Il n'y aura pas de marche, hein, on vous rassure.
Ah oui, voilà. C'est pour ça. Zut alors, je suis Boko Haram. Ah non, merde, non, c'est pas ça. Donc voilà, juste que se tenir informé autour de ce qui se passe là-bas, parce que c'est un véritable génocide, hein, en fait. Tout bêtement, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Il liquide tout le monde. Donc vraiment, et de constater donc il ne s'y passe rien, l'État ne réagit quasiment pas, prétend former des militaires qui nanana. Bref, et les États qui d'habitude sont prompts à venir en aide à ces pays d'Afrique dans le désespoir, mais a priori il faut croire qu'il y a rien de pécuniairement intéressant là-bas, laisse faire dans l'indifférence générale. Voilà, ça c'était pour la Syrie et le Niger. Pour Boko Haram. Est-ce que oui.
Petit truc international, ouais, vite fait. Un petit rapport d'Amnesty International par rapport à l'Égypte. Du coup, avec un titre de ce rapport, donc le cercle infernal, violence domestique, violence publique et violence d'État contre les femmes en Égypte. Donc, pour la responsable de cette coordination d'Égypte à Amnesty International, la liste des agressions est très longue. Les femmes mariées ou divorcées qui ont subi les violences physiques de leur mari. Il y a aussi 91% des femmes égyptiennes qui sont excisées. Autre chiffre terrible et qui part tout seul, l'Égypte compte plus de 37,3% de femmes-filles de plus de 10 ans qui sont analphabètes. Il reste donc, vous le voyez, beaucoup à faire pour qu'il y ait un espoir de progrès vers l'égalité hommes-femmes en Égypte. Donc vous pouvez consulter ce rapport d'Amnesty International. On finira par cette petite déclaration. Nous avons depuis les manifestations de la révolution de janvier 2011 des centaines de femmes victimes d'agressions sexuelles et ou physiques pendant les manifestations. Certains des agresseurs ont été interpellés, mais un seul d'entre eux a été amené devant un tribunal. C'est d'ailleurs la même chose pour les médecins lors de décès de fillettes pendant les opérations d'excision. Aucun n'a été jusqu'à présent condamné. On rappelle du coup que l'Égypte compte 24% de femmes au chômage pour 9,2% de chômeurs selon ce document publié ce mercredi 21 janvier.
Ambiance. Tiens, mais alors, vu qu'on est toujours sur les femmes et l'international, le petit clip de la police hongroise, peut-être?
Ouais, donc voilà, ouais, donc la police hongroise, donc, a fait un clip, alors, entre très gros guillemets aussi, de prévention contre le viol, qui a été mis en ligne, donc, par la police d'un district hongrois, explique aux femmes que si elles se font violer, c'est quand même un peu de leur faute. La vidéo met en scène trois jeunes femmes qui se préparent à sortir, jupe courte, maquillage, alcool, soirée en boîte. À la sortie, l'une d'elles se fait agresser par un homme cagoulé. Donc, après, il y a un petit slogan qui fait « Vous pouvez faire quelque chose pour éviter ça », dit le message de fin. Donc plusieurs groupes féministes hongrois ont réagi. Ce n'est pas l'habit qui fait la victime, rappelle dans un communiqué le collectif contre les violences sexuelles Keret. L'association des femmes hongroises a mis en ligne une pétition pour que la police diffuse des vidéos qui s'adressent aux agresseurs, pas aux victimes. En Hongrie, beaucoup de gens pensent encore que si une femme se fait violer, c'est de sa faute et le clip est le reflet de ses préjugés. Pourtant, le viol n'a rien à voir avec la manière dont on s'habille, contrairement à ce que sous-entend le clip. Plus grave, ce clip instaure un faux sentiment de sécurité et laisse penser que si on s'habille comme un sac et qu'on ne boit pas d'alcool, on est à l'abri. De plus, en Hongrie comme en France, on le rappelle depuis longtemps nous aussi, les viols sont rarement commis par un inconnu à la sortie d'une boîte, mais dans la majeure partie des cas, par un membre de l'entourage. Donc voilà.
Oui, tout à fait, un ami de la famille, ou bien un membre de la famille, ou même parmi nos copains, qui sont plus ou moins proches.
Est-ce qu'on parle du clip, du coup, vite fait, ou pas ?
Du clip.
Contre le viol, justement, qui va sortir bientôt en France, ou qui est sorti ?
Oui, vas-y, parle-en.
J'y vais. Donc en fait, il y a une petite description de ce clip-là, donc avec un homme qui arrive dans une fête et fait la tournée des bises. La voix off d'une femme commente ce qu'il représente pour chaque convive. Donc là, le témoin du mariage, l'homme le plus drôle qu'on connaisse, le pote sur qui on peut compter. La caméra s'arrête sur le visage bouleversé auquel appartient la voix. Elle reçoit la dernière bise, pétrifiée. Pour moi, c'est l'homme qui m'a violée, et ça, qui peut l'entendre ? Dans ce clip court et percutant qui sera diffusé dès ce matin, donc voilà, sur Internet, et à partir du 27 janvier sur une quinzaine de chaînes, pas de cris, pas d'impasse mal éclairée, ni d'ombre menaçante brandissant un couteau. Le viol est un cauchemar silencieux, ignoré de tous, à peine pensable, encore moins racontable, qui implique un proche au-dessus de tout soupçon. Et si le clip est fort, c'est qu'il est juste. On rappelle, voilà, près de 80% des auteurs de viol sont des personnes que la victime connaît. C'est le père de votre meilleur ami qui profite d'un moment seul un week-end, le copain qu'on héberge sur son canapé parce qu'il a soi-disant trop bu pour rentrer, le gentil voisin qui s'est fait des idées et qui vous plaque au mur. Voilà, assumer de porter plainte contre quelqu'un qui fait partie de votre vie, c'est extrêmement difficile, surtout que les autres sont rarement prêts à l'entendre. Il faut donc sensibiliser l'opinion, il en va de la vie des victimes parfois, car un viol, surtout qu'on ne peut pas raconter, c'est un traumatisme dont le ressentiment physique et psychique peut littéralement dévaster. Voilà, après, il y a un petit topo sur les nombres de plaintes, mais voilà, vu ce qui passe, c'est...
Voilà, des petits rappels, genre, par exemple, non, c'est non, hein, tout bêtement, c'est bête à dire, mais...
Une étude scientifique qui a prouvé que non, c'est non, c'est vraiment non, en fait,
oui,
mais pour de vrai.
Voilà, c'est vraiment non, hein, non, c'est vraiment non. Et puis là, on parle de viol, hein, c'est-à-dire, on va dire, l'aboutissement d'un acte de violence. Faut savoir aussi que, là, je pense qu'il y a à peu près aucune fille cis ou trans qui pourra dire le contraire, que des actes de violence, on a subi tout à un moment donné, plusieurs, de façon répétée ou pas, des actes de violence d'hommes hétéros, très souvent, cis hétéros, qui cherchent à poser la main sur un genou, à être un peu insistant, à vouloir faire juste un bisou. Ce n'est pas un viol, effectivement, puisqu'il n'y a pas de pénétration des organes génitaux, enfin d'un organe génital dans l'autre, mais ou dans, pas forcément d'ailleurs dans les parties génitales, ça peut être aussi anal. C'est donc pas un viol, mais ce sont aussi des violences, et pareil, ce sont des choses qui sont commises par des personnes qui sont souvent proches. Il n'y a pas que le vieux dégueulasse, qui est pas forcément vieux d'ailleurs, dans le métro, hein. C'est pareil, hein, la même histoire, le copain bourré qui a envie quand même de faire un bisou qui dérape, mais non, mais c'est pas moi, j'ai bu. Mais non, mais t'as bu, mais tu es capable de te contrôler quand même. Voilà. Est-ce qu'on leur parle quand même un peu de ce qu'on va faire dans 15 jours, Jean ?
Vous pouvez, on peut.
On peut leur en parler.
Ouais, puis après je ferai juste deux petits trucs et puis.
D'accord, mais alors juste, hein.
Oui,
mais vas-y, parle-leur.
De quoi,
on leur parle de dans 15 jours.
Dans 15 jours. Donc samedi, on sera donc le 31 janvier. On va vous inviter à la Plume Noire pour une nouvelle activité à prix libre avec un camarade donc qui est dans le Jura et qui va donc nous parler du syndicalisme agroalimentaire notamment et surtout les problèmes qu'on peut rencontrer quand on est un peu isolé et quand on est exploité, etc., etc. Donc il va nous faire un petit topo là-dessus, une petite présentation avec après une discussion libre forcément sur le sujet. Ce sera le 31 janvier à la Plume Noire à partir de 15 h.
Voilà, alors quand on dit agroalimentaire, ça fait un peu peur, là, on pense tout de suite Monsanto, OGM et tout ça. Non, non, rien à voir. Hein. Là, dans agroalimentaire, en l'occurrence, le camarade, il est berger. Hein. Donc voilà, c'est ça va être un moment assez chouette et assez intéressant, je pense. Puis ça va nous sortir, nous, les gens de la ville, un peu de notre petit, quant à nous, on va dire, quant à soi, de voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que finalement, ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe principalement.
Voilà. Donc voilà, moi je voulais enchaîner avec le gros con de la semaine, si vous me permettez. Donc le gros con, il y en a beaucoup en même temps, c'est toujours difficile à choisir. Si on devait faire une rubrique hebdomadaire, je pense qu'on se battrait pour savoir lequel on mettrait dans cette rubrique. Bon, mon gros con de la semaine en tout cas, bah, c'est le député UMP Éric Ciotti. Vous rappelez, donc c'est un des parlementaires UMP qui fait partie de la droite populaire, ce petit collectif de parlementaires qui essaie de faire des trucs bien cradins, qui pique tout plein d'idées à l'extrême droite pour essayer de les faire appliquer au niveau gouvernemental. Et donc ce monsieur donc a proposé jeudi de mettre en place un dispositif pouvant aller jusqu'à la suppression des allocations familiales aux familles d'élèves ayant perturbé la minute de silence en hommage aux victimes d'attentats en France. Donc voilà, les Français ont découvert avec stupéfaction que cette minute de silence avait été perturbée dans des centaines d'établissements scolaires. Bon, il y en avait 200, des centaines, enfin, peut-être pas exagéré, ce qui témoigne d'une défiance à l'égard de la démocratie, mais elle traduit également des failles majeures de l'autorité parentale. Donc voilà, donc il a déposé ce jour une proposition de loi visant à rétablir le contrat de responsabilité parentale, supprimée en janvier 2013 par le gouvernement. C'était un peu le dada de l'UMP au moment où ils étaient au pouvoir, hein, c'est de à tout prix supprimer des allocations familiales aux familles les plus pauvres qui avaient quelques soucis avec leurs enfants. Et le miraculé de la semaine, à 52 ans et des brouettes, il me semble, il a enfin ouvert les yeux. Et oui, Manuel Valls a dit, il existe en France un apartheid territorial, social, ethnique. Et oui, les mots sont forts, surtout dans la bouche, hein, du Premier ministre, hein, voilà. Mais il a ajouté, il faut ajouter toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps et dont on ne parle uniquement par intermittence. Les émeutes de 2005, hein, qui aujourd'hui s'en rappellent, oui, sûrement pas toi, étant donné qu'il y a des gens qui sont encore jugés et que les policiers sont tranquilles. Et pourtant, les stigmates sont toujours présents. Voilà. Sur la relégation périurbaine, les ghettos, à cette misère sociale, selon les mots du chef du gouvernement, s'additionnent les discriminations quotidiennes parce qu'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Alors, je sais pas s'il prend les gens pour des cons, ou s'il s'est réveillé miraculeusement. Des fois, ça arrive, on prend un coup sur la tête, et tout d'un coup, on change totalement d'idéal et compagnie. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, bientôt en France, mais bon, donc voilà. Donc, Manuel Valls s'est réveillé, il a vu qu'il y avait des problèmes un petit peu dans les banlieues, mais ça faisait peut-être 30 ans que ça durait, que tous les gouvernements successifs de gauche et de droite était responsable. Mais bon.
La vue de la lumière.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête.
Eh bien, nous, pour voir la lumière, on va vous faire 2-3 annonces.
Je crois que ça a enchaîné.
Oui, avec une blague ouais, sur la clair. Lumière du frigo. J'y étais presque.
Ouais, ouais,
dommage.
Ça allait couler de source et tout.
Et non.
Mais Daniel n'était pas là.
Voilà.
Les petites annonces, donc on vous a dit demain une petite réunion là à la fac, mais si vous n'êtes pas étudiante, vous n'avez pas de carte, vous pouvez pas rentrer parce que les vigiles ne sont pas rentrés.
Pas de carte,
vous faites comme
pas.
Vous voulez en fait. Rassemblement RESF 18h devant la PREF pour le cas des jeunes majeurs notamment. Mmh. On vous a lu tout à l'heure aussi la pétition à signer par rapport au test osseux. Et vendredi soir à la Plume, projection de Pride, ouverture à 20h, projection à 20h30, c'est à prix libre. Voilà, on vous invite aussi à aller sur notre site cgalion.ouvaton.org. Il y a aussi un communiqué de la commission antipatriarcale qui a écrit un tract par rapport aux 40 ans de la loi Veil, par rapport à l'avortement. Il y avait un rassemblement samedi dernier, place de la Comédie, et donc la commission antipatriarcale en a profité pour écrire un petit truc, donc vous pouvez aller voir ça sur le site.
Et une dernière chose, si vous avez la chance, l'honneur, la joie et le bonheur de nous entendre comme ça une fois tous les 15 jours sur Radio Canu, c'est parce que Radio Canu fonctionne, mais Radio Canu a besoin de sous. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Canu pour voir l'adresse postale et à qui il faut envoyer les sous. Radio Canu va bientôt faire une petite bouffe à l'atelier des canulars. J'ai plus la date en tête.
Je crois que c'est ce week-end, hein. Il me semble que c'est vendredi ou samedi, mais voilà, vous pouvez y aller. Une bouffe,
de soutien. À l'atelier des canulars,
voilà,
le 7e.
N'hésitez pas à y aller. Et puis, si vous voulez, si vous avez raté l'émission, c'est arrivé qu'à la fin, bah, vous pouvez aller, donc, sur le blog des émissions de Radio Canu, enfin créé. Donc voilà, donc, on va pouvoir, merci. Ouais, oh, standing ovation. Yeah, c'est formidable. Et donc, vous pouvez donc réécouter l'émission qui sera mise dans quelques minutes, une petite heure peut-être sur le blog. Voilà, enfin.
Eh ben, on vous laisse cette fois-ci avec la lumière du frigo. On vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.
Salut.